Nagila da Flamel. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui, c'est une suite du sujet précédent. On va continuer justement le sujet qu'on a commencé hier à essayer d'apprendre et de connaître les différents arrêts qu'on va retrouver dans la Torah. On peut retrouver plusieurs fois où on va marquer un arrêt, on va faire des séparations et on a essayé de comprendre d'où elles viennent toutes ces séparations. Alors juste un résumé en quelques mots. On a vu que la séparation entre les mots, c'est bien sûr une séparation céleste, d'une halakha le Moshe Mishinaï. On a vu que la séparation qu'il y a entre les psukim aussi, c'est une séparation céleste. Et la séparation qu'il y a entre les parachiotes, comme elles s'appellent les parachiotes, c'est-à-dire le P et le Samer qu'on retrouve dans le Chumash, parachia, ptucha et stuma, qui va faire une séparation dans le Sefer Torah, où on va passer à la ligne ou bien on va faire un espace. Ça aussi, c'est une séparation céleste. On a vu aussi hier que la séparation des parachiotes de la semaine, c'est-à-dire de la parachat à Shavua qu'on va lire dans le Sefer Torah chaque semaine, ça par contre, c'est une séparation qui est qu'une séparation d'un minag, et c'est un minag très très ancien qui date de milliers d'années, et on a vu longuement qu'il y avait à l'époque deux minagim généraux dans le clan d'Israël. Le minag de Babel, c'est le minag qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, on va finir la Torah une fois par an, donc on aura 53 parachiotes. Et le minhag d'Eretz Israël, qui a résisté pendant 1000 ans et qui s'est arrêté il y a 1000 ans, c'est un minhag où ils avaient l'habitude de répartir la Torah autrement complètement. Les parachiotes étaient beaucoup plus petites, ça s'appelait des sidarim, et ces parachiotes, avec les parachiotes, ils avaient l'habitude de finir de faire la Torah que tous les 3 ans. Et on a vu aussi que d'après le Abarbanel, du temps du Beth Amikdash, c'était ni comme ça, ni comme ça. Ils avaient l'habitude de finir la Torah tous les 7 ans. Les parachutes, elles étaient beaucoup plus petites. Et c'était justement ça. En fonction de ça, le Abarbanel va expliquer la mitzvah de Hakel, qui avait lieu tous les 7 ans, quand quand l'année de Shemitah se finissait, lors de la fête de Sukkot, tout le clan d'Israël se rassemblait justement pour écouter le Sefer Dvarim et le Siyum de toute la Torah. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a une chose que je n'ai pas réussi bien à vérifier, c'est ce minhag qu'on a l'habitude de finir la Torah à Simchat Torah. Est-ce que ça aussi, c'est un minhag qui date depuis toujours? Ou bien ça, c'est quelque chose qui a changé, qui est arrivé plus tard, de faire le rapport en fait entre Simchat Torah, qui est en fait Shmini Atzeret, et ce qu'on appelle nous Simchat Torah, c'est exactement le même jour, et en fait... Le rapport entre les deux, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire c'est une fête qui de toute façon elle existe de Minatora, le 8e jour de Sukkot, et justement ce siyum, on a pris l'habitude de faire le siyum de la Torah, de la lecture de la Torah, justement pendant ce jour-là. Est-ce que c'est quelque chose qui date depuis toujours, depuis que ce minhag existe, ou bien non? Eux, c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de finir la Torah toutes les années, mais pas forcément justement c'était date de Simchat Torah. Apparemment, il n'y a pas de raison de dire que c'est quelque chose qui a changé, mais quand même, on n'est pas obligé de dire que ces deux choses-là vont ensemble. Donc voilà, on a vu les mots, on a vu les psukim, on a vu le parashia ptucha istuma, et on a vu la parasha de la semaine et le seder, comme s'appelait en Eretz Israël, les petites parashiot qu'ils avaient eux. On va voir aujourd'hui, on va compléter les choses, ce sujet. On retrouve dans le Chumash, il y a encore d'autres séparations, d'autres espaces qu'on retrouve dans le Chumash. Alors aujourd'hui, on va voir, Bezrat Hashem, les prakim, les chapitres, et on va voir aussi, bien sûr, les Chumashim, le Chumash Bereshit, Chumash Shemot, et une troisième séparation, c'est la répartition des aliyot, Rishon, Sheni, Shlishi, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de relief dans le Chumash, et on va essayer de voir qui a fait toutes ces choses-là. Alors, la séparation des Chumashim, on va commencer justement par ça, parce que c'est une séparation qui est aussi céleste, le Chumash Bereshit, le Chumash Shemot, bien sûr, les 5 Chumashim qu'on a dans la Torah, c'est quelque chose de Halakha de Moshe Mishinaï, c'est quelque chose de céleste, et dans la Gemara, on peut retrouver qu'il y a un certain Midrash qui dira, une certaine dracha qui dira, Chatzva Amulea Shiva. En fait, il y a, pour certaines choses, on dira qu'il n'y a pas 5 Chumashim, il y en a 7, en fait. Pourquoi? Parce que la paracha de Vayhi Binto Aaron, se trouve en paracha de Alotra, il y a 2 psukim, Vayhi Binto Aaron, qu'on dit quand on va ouvrir le Sefer Torah, et ces 2 psukim-là sont considérés comme un chumash en soi. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à sept Chumashim. Il y a Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Veikra, le début de Sefer Bamidbar jusqu'à Vayi bin Soharon, Vayi bin Soharon, la fin de Sefer Bamidbar et Sefer Dvarim, ça nous amène à sept. Il y a une halakha intéressante que le Aderet, c'est le Rav de Yerushalayim il y a à peu près 100 ans, il ressort d'ici une halakha spéciale. Il dira que on sait que la dernière mitzvah de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Or, on ne peut pas tous écrire un Sefer Torah, on ne sait pas forcément bien écrire. Et il dira qu'il y a certains avis qui diront que quand on dit d'écrire le Sefer Torah, c'est pas forcément d'écrire toute la Torah, mais même si j'écris un chumash entier, c'est que j'ai déjà fait une certaine mitzvah, j'ai déjà fait cette mitzvah. Et donc il dira le Aderet, si quelqu'un il veut faire cette mitzvah, il a la possibilité d'écrire justement ces deux psukim de Vayi bin Soharon sur un parchemin, et de cette manière-là, d'après au moins certains avis, il aura fait cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc maintenant on passe à la séparation des prakim. Qui a fait cette séparation des prakim? Ici, c'est quelque chose à savoir. C'est une séparation qui n'est pas du tout céleste et qui n'est pas juive. C'est une séparation qui a été faite par les chrétiens carrément. Et c'est vrai qu'elle date de très longtemps, à peu près 700 ans, ils l'ont fait. Mais c'est eux qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que comme on le sait tous, chez les chrétiens, il y a beaucoup d'honneur envers le Tanakh. Tanakh c'est le livre qui est le plus vendu dans le monde. Et donc, eux qui ont fait le Tanakh, qui ont écrit le Tanakh et par la suite, ils l'ont aussi imprimé, c'est eux les premiers qui l'ont imprimé, pour que ce soit pratique, comme on le fait dans tous les livres, les goyim, ils ont justement fait cette séparation entre les prakim. Donc on peut remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout logiques dans cette séparation, et un manque de compréhension dans la séparation, par exemple. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est pour que ce soit pratique, on va prendre une moyenne entre 30 et 50 psukim, on en fait un chapitre, et puis en fonction de ça, on utilise les psukim. La séparation des psukim, qui est une séparation originale d'Hachem, et justement ces psukim, c'est eux qui vont nous donner la numérotation des psukim. Donc en fait, ils ont coupé les chapitres, et par la suite, utilisé les psukim, et les ont numérotés en fonction des chapitres qu'ils ont fait. De manière générale, il faut savoir que quand les chrétiens ils ont imprimé le Tanakh, ils se sentaient vraiment balabaït, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient avec le Tanakh et ils ont fait ils ont causé beaucoup de dommages dans le Tanakh. Par exemple, dans la Sefer Shmuel, c'est eux qui ont inventé qu'il y a Shmuel Aleph et Shmuel Bet parce que c'était un Sefer qui était trop long. Alors ils ont décidé de le couper en deux tomes, mais c'est pas du tout cette coupure là, c'est pas du tout quelque chose de vrai. C'est juste quelque chose qui a été inventé par les goyim. Aussi Melachim, les Divrei Hayamim, ils les ont coupés en deux. Et encore plus de ça, ils ont inventé un livre. On sait que dans le Tanakh, il y a 24 livres. Et Sefer Nehemia, c'est un livre qui n'existe pas. Qui fait partie du Sefer Ezra. Le Sefer Ezra, il est assez long. Eux, ils ont décidé de leur propre décision de couper le Sefer Ezra en deux et d'appeler la moitié du Sefer Ezra Nehemia et l'autre moitié Ezra. Le premier Tanakh qui a été imprimé, c'était à Venetia, à Venise. Et c'est là-bas, au fait, qu'ils ont imprimé le Tanakh et le Shas, comme on le sait. Et d'ailleurs, dans le Shas aussi, la séparation des Dapim, comme on a dans le Daf Yomi, par exemple, elle a été faite aussi par des Goyim il y a très très longtemps, il y a à peu près aussi 700 ans. C'était pas exactement la même forme du Daf, mais le mot et le premier mot et le dernier mot, c'était justement en fonction de ça. On peut retrouver par exemple dans le Beit Yosef, qui, dans son temps, il n'y avait pas encore la Gemara qu'on connaissait avec la Surat Adaf qui a été faite à Vilna il y a à peine 200 ans, 300 ans. Et quand même, le Beit Yosef, il nous ramène des références en fonction des dapim que nous on connaît. Il va nous ramener, par exemple, Ayen Ktuvot, Daf Kafbet, Amudbet, pas Amudbet, Daf Ale Kafbet, il appelle ça pas Daf, il appelle Ale. Et c'est justement les mêmes références que nous on connaît, parce qu'en fait le Shas, c'est vrai qu'il n'avait pas encore la forme avec le Rashi à droite, le Tosfot à gauche, il n'avait pas exactement la même forme, mais par contre le nombre des dapim de chaque Masechet et le premier mot ou le dernier mot, c'était exactement le même, c'est pour ça qu'on peut retrouver la même référence. En tout cas, en revenant au Tanakh, puisque de manière générale dans les imprimeries où ils imprimaient les sfarim, la majorité des sfarim, c'était bien sûr des sfarim juifs, parce que du Moyen-Âge, pendant le temps du Moyen-Âge, il y avait ceux qui achetaient des sfarim, ceux qui savaient lire, c'était des juifs. Les goyim, ils ne savaient rien faire, ils ne savaient pas lire. Et donc, c'était justement des livres juifs qui ont été imprimés au début par des goyim. Et donc, de temps en temps, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Ils ont fait des changements, etc. Donc, des fois, en fait, c'est un changement qui, c'est que quelque chose de bête et d'idiot, que d'ignorance. Mais des fois, c'est encore pire que ça. Ils ont fait, ils ont coupé les chapitres en fonction de ce que eux ils voulaient pour le christianisme. Par exemple, au début de la Torah, il y a les 6 jours de la semaine. C'est écrit Vayere Vayiboker Yom Echad, Vayere Vayiboker Yom Sheni, etc. Ils en ont fait un chapitre et le 6e jour, il a été coupé. On peut encore remarquer que c'est Perek Bet. Dans Perek Bet, ils ont mis Shabbat. Le Shabbat, c'est dans un 2e Perek. En fait, ça, ils ont fait parce que chez eux, en fait, il n'y a aucune signification à Shabbat. C'est pas le dernier jour de la semaine. Donc, pour essayer de changer et de déformer, ils ont mis Shabbat dans un autre chapitre pour que, en fait, l'œil, il attrape qu'il y a ici une séparation et que Shabbat, c'est pas forcément le dernier jour de la semaine. Et pour essayer de rentrer leur nouvelle chose que la semaine commence depuis lundi à lundi. Il y aura aussi quelques exemples à ce propos-là. Des fois, ils sont intéressés, par exemple, de mettre en relief certaines histoires qu'ils sont intéressés de mettre en relief. Et donc, ils commencent le pérec par là-bas, et etc., etc. Il y a plusieurs exemples là-dessus. Donc ça c'est quelque chose à savoir, il n'y a rien à faire, aujourd'hui c'est rentré, c'est impossible de changer toute la bibliothèque juive qui se fait référence justement à ces prakim, à ces psukim, et donc si c'est comme ça, cette référence elle est restée, mais au moins que nous on sache qu'elle n'est pas forcément vraie. On peut retrouver aussi par exemple des fois à la fin de la paracha, un pasouk avant la fin de la paracha de la semaine, ou avant une paracha ptoucha et stouma, le perek il change, on dirait qu'ils ont fait exprès pour ne pas faire référence à la vraie séparation qui a été faite par la Torah, par un chapitre stoma ou par ignorance ou par exprès. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à savoir que cette chose-là a été faite par un goy, il n'y a aucune kedusha là-dessus. Et puis maintenant, on va passer à la dernière séparation, le dernier espace qu'on retrouve dans la Torah. On peut retrouver dans les Chumashim. On commence la paracha, on va voir tout d'un coup chez Nish, Lishi, etc. C'est les arrêts qu'on va s'arrêter, on va faire monter quelqu'un d'autre à la Torah. Qui a fait cette séparation? Ici aussi, c'est pas une séparation céleste, c'est une séparation qui a été faite beaucoup plus tard. Celle-là, par contre, elle a été faite par un juif, qu'on ne sait pas qui il est, mais c'est un bon juif qui a voulu nous donner quelque chose de pratique, et c'est lui qui nous a décidé, qui a fait, quand il a imprimé le Chumash, c'est lui qui l'a fait pour que ça soit pratique, qu'on donne un certain nombre de psukim, que ça soit plus ou moins égal, pour donner aux gens qui vont monter à la Torah. Si on ouvre un Chumash il y a à peu près 350 ans, il n'y avait pas encore du tout cette séparation. Cette séparation, elle a été faite plus tard, justement il y a à peu près 350 ans, et c'est là les premiers Chumashim qu'on peut remarquer qu'ils ont été faits avec leur Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, etc. Et puis par la suite, tout le monde a fait en fonction de cette chose-là. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors avant, tout simplement, c'était le gabaï ou le rav de la shul qui ouvrait la paracha de la semaine et qui décidait combien de psukim on va lire au début, combien quand on va s'arrêter, etc. Il n'y avait pas du tout quelque chose de fixe. Dans chaque communauté, il faisait quelque chose d'autre. Il y a juste quelques halakhot à respecter. Mis à part ces quelques halakhot, chacun il peut s'arrêter là où il veut. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand on rajoute des aliyot, alors on lit quelques psukim et on s'arrête et on fait des changements à ce propos-là. Ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire. Quelles sont les halakhot qu'il faut connaître? On les a déjà vus il y a quelques dapim. Il faut d'abord, on lira minimum 3 psukim. Et on ne s'arrêtera pas 3 psukim à la fin, avant la fin d'une parasha ptoucha et stouma. Et on ne va pas commencer 3 psukim au début d'une parasha ptoucha et stouma. Donc, on ne va pas commencer 2 psukim, pardon. On va commencer minimum 3 psukim et là, on pourra s'arrêter. Et aussi, une halakha qui concerne les tochachot. Quand on va lire les tochachot de parasha de Chukotai, par exemple, il y aura un bracha il y a un pasouk dans Michelet qui dira « Altakot betochachto ». Donc, si on veut traduire le pshat pashut du pshat, ça veut dire « Ne repousse pas la tochacha de Hachem ». Accepte les souffrances que Hachem, il donne, et comprend que c'est maintenant le moment de faire tchouva. Mais quand même, il y aura un bracha qui dira « Altakot » dans le sens « Ne pas couper la tochacha ». Et donc, toutes les tochachot vont, il y aura une seule alia sur quelqu'un qui va monter sur toutes les tochachot. C'est pour ça que c'est une alia qui est très très longue. Parce qu'on ne veut pas couper les tochachot au milieu. Donc, il y a aussi quelques halakhot comme ça à connaître, mais mis à part ces choses-là, On peut, au fait, couper la paracha d'une autre manière que ce qui est écrit dans le Chumash. On peut remarquer quelque chose qui est très mis en relief chez cette personne-là, chez ce, ce juif qui a fait cette, cette séparation, cette, cet arrêt des Aliot. Il avait l'habitude de faire très très attention de s'arrêter, de finir l'Aliya et de commencer la nouvelle Aliya avec quelque chose de bien. Alors ça, c'est en soi quelque chose, c'est quelque chose de bien aussi, de, d'essayer de finir l'Aliya avec un bon sujet, quelque chose de bien, mais quand même, il a exagéré un petit peu avec cette chose-là. C'est pas moi qui le dis, c'est des grands rabbanim qui l'ont dit, que de temps en temps, il s'est trompé. Et, il a, par exemple, il a arrêté, un, il a coupé un sujet en deux parce que il, c'était un endroit où plus ou moins il fallait s'arrêter. Et on ne doit pas couper un sujet en deux du moment que, pourvu qu'on puisse finir par, par quelque chose de bien. Donc ça, c'est quelque chose que certains rabbanim ont, nous ont fait la remarque, par exemple. Dans Parashat Toldot, à la fin de Parashat Toldot, c'est écrit Vaishma Yaakov la vive Oleimo, Yaakov va écouter ses parents pour aller chez Lavan, pour se sauver de Esav. Et il n'y a aucune logique au fait de s'arrêter à ce passage-là. C'est en plein milieu de l'histoire, mais au fait, ça fait tromper les gens. Parce que quand les gens ils vont voir ici qu'il y a une alia, l'œil, il voit qu'il y a aussi un changement d'alia, on dirait que c'est un changement de sujet, mais en fait, il a coupé le sujet en deux pour pouvoir finir avec quelque chose de bien. Et donc, ici, il y a quelques rabbanim. Par exemple, justement, le ADR qu'on en a parlé tout à l'heure, il a dit que non, ici, dans plusieurs endroits, s'il y aurait pu, s'il pouvait, a dit le ADR, j'aurais réimprimé le chumash avec tous les changements en fonction, en gardant bien sûr toute la halakhot et en même temps, en faisant une séparation beaucoup plus logique, hein, une répartition beaucoup plus logique des aliot. Et aussi, il faut savoir que pas forcément tout ce que, ce qui a l'air quelque chose de mauvais, de mal dans le pasouk, c'est aussi quelque chose de mauvais. Et par exemple, on peut retrouver plusieurs parachiotes qui se finissent avec quelque chose que c'est sûr que ce juif-là qui a fait la différence, la répartition de l'aliot, il n'aurait jamais fini une paracha comme ça, mais comme c'est pas lui qui a choisi la fin des parachiotes, lui, il a choisi que la fin des aliot, et donc il ne pouvait pas changer cette chose-là. Par exemple, on ouvre à la fin de paracha de Vayikra, ça finit par les mots « les hashma ba ». Et si c'était lui qui, si on lui redonnait à choisir, il n'aurait jamais fini une paracha par ces mots-là. Mais il faut savoir que pas tout ce qui est mauvais, ce qui a l'air mauvais, c'est quelque chose vraiment de mauvais. De faire le dîn avec les rishaïm, de tuer les rishaïm, au contraire, c'est quelque chose de bien. Ça rend propre le monde et on peut finir une alia avec en disant que quelqu'un un tel est chayav mita. Aussi dans Parashat Kedoshim, écrit dmehem bam sur certains qui font des averot. Alors on va les faire sortir à la mort. C'est écrit dmehem bam. Qu'on ne va jamais trouver dans la fin d'Aliot, mais par contre, dans la fin de Parashat Yoshim, c'est quand même, ça finit comme ça. Or, on sait que la répartition des Parashiot, c'est une répartition beaucoup plus ancienne, qui a été faite par des gens beaucoup plus grands. Et c'est intéressant de remarquer qu'il y a un minag, il y avait un minag à l'époque, quand on finit Parashat Vayikra, tout le public, il se lève et ils disent les mots, laquelle, asher, shavat, mikol, amasim, ou bayom, ashvi, nitala, ve, shavat, kusekudo. Quel rapport? Et justement, on explique que c'est à cause de cette chose-là. Puisque la paracha s'est finie avec les mots les hashma ba, ils avaient l'habitude de dire cette phrase-là, parce que les mots les hashma ba, c'est les rachetés votes de cette phrase. Laquelle, les hashma, laquelle, asher, shavat, mikol, amasim, on va yom, bayom, hashvi. Voilà, ça c'est les rachetés votes. Donc justement, peut-être à cause de ce problème-là, ils n'étaient pas intéressés de finir comme ça la paracha, donc ils disaient cette phrase. Dans Parashat Echa, dans Megillat Echa aussi, qu'on va lire à Tisha B'Av, comme le dernier pasouk, c'est un pasouk qui est difficile, alors on reprend l'avant-dernier pasouk. Dans certains Haftarot aussi, on fait cette chose-là, et on relit, par exemple, dans Parashat Echa, on relit Ashivenu Hashem Elecha V'Nashuva Chadeshamenu Kedem. En Hongrie, on retrouve aussi un minag intéressant. Dans Parashat Shlach Lecha, la première montée, elle se finira par les mots Vayamim Yeme Bikure Anavim. C'est à propos de l'histoire des Meraglim. Et on finit cette alia avec ces mots-là. Et en Hongrie, ils avaient l'habitude de ne pas finir avec ces mots-là. Et en fait, on comprend pas quel est le problème. Pourquoi ces mots-là, c'est des mots qui sont difficiles, qui sont mauvais. Et il y en aura qui, il y a des tzadikim qui ont expliqué au fait que ici, on fait référence à quelque chose de très difficile parce que quand on dit yeme bikore anavim, donc littéralement, ça veut dire c'est le moment où les raisins commençaient à pousser. Mais on peut expliquer aussi bikore anavim. C'est-à-dire, on prend le mot anavim, ayin, nun, vet, yud, mm, et on prend les bikure anavim, c'est-à-dire les lettres qui vont précéder ces lettres de Anavim et on arrive au nom du Samech Mem. Et ça fait référence au fait, ça nous fait une allusion que c'était un moment très difficile et c'est à cause de ça que l'histoire a mal tourné par la suite. Parce que justement, c'était un moment où le Satan, il avait une certaine force dans le monde. Donc pas forcément ce qu'on croit que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mauvais. Et il y a aussi l'exemple contraire, pas forcément quelque chose qui est beau, qui est bien, c'est aussi quelque chose de bien. Des fois, il y a aussi une référence à quelque chose de difficile et donc certains feront attention de ne pas finir justement avec ces aliotes comme elles ont été écrites dans le Chumash. Et il y a une exception, il y a une seule paracha où les aliotes qui ont été faites, la répartition des aliotes, c'est une répartition qui est bien bien plus ancienne et qui vient d'une référence beaucoup plus originale. C'est dans Parashat Ha'azinu. Dans Parashat Ha'azinu, on va faire une répartition avec le siman Haziv Lach. On commence par Ha'azinu, après Zechor Yomot Olam, etc. Cette répartition, c'est une répartition très ancienne et elle fait référence justement à au Beit Hamikdash. Au Beit Hamikdash, quand les Lévites ils vont chanter au Beit Hamikdash, quand on va faire les korbanot, le korban tamid de l'après-midi de Shabbat, les Lévites ils avaient l'habitude de lire quelques psukim et ils prenaient justement ces 7 semaines-là et toutes les 7 semaines ils finissaient par Parashat Ha'azinu. Donc ils commençaient la première semaine ils disaient Ha'azinu jusqu'à Zechor Yomot Olam, la deuxième semaine Zechor Yomot Olam jusqu'au Shlishi, et la troisième semaine du Shlishi au réveil, etc. Et il finissait comme ça par Parashat Ha'azinu toutes les 7 semaines. Et c'est en fonction de cette répartition que nous on a repris cette répartition et on va faire les 7 montées du Shabbat de Parashat Ha'azinu. Mis à part cette exception, les répartitions d'Aliot, c'est une répartition qui est arrivée bien plus tard par un bon juif qui a voulu bien faire, mais pas dans tous les cas, il a bien visé dans le milieu.